Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Parlons un petit peu maintenant de ce qui se passe là auprès des sinistrés. Les inondations des dernières journées, c'est loin d'être terminé parce que, vous le savez, vous avez entendu les bulletins météo. On appréhende encore beaucoup de pluie. On parle de 30 mm. Puis en plus, vous savez quoi? On dit qu'il y a des régions qui risquent d'être encore plus touchées. On pense à l'Outaouais. Il y a des gens qui m'envoyaient des photos hier soir là, pour me dire, regardez, entre autres, je vois une photo là, qu'on m'a envoyée du pont Lady Aberdeen qui traverse le secteur Hull, les pointes Gatineau à Gatineau. Et sincèrement, quand on regarde le niveau de l'eau, là, c'est à quasiment à la hauteur du pont. Là. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Donc, il n'y a pas que la région de Sainte-Marthe sur le lac qui est très touchée. Il y a d'autres régions au Québec, même si à Sainte-Marthe, évidemment, on appelle ça maintenant une zone. Il y a tout un quartier qui a été complètement condamné. C'est épouvantable ce que les gens vivent, là. Épouvantable. Évidemment, tout le monde a déjà eu au moins, je suppose, là, un dégât d'eau dans sa vie, un problème de moisissure. Ça suit souvent le dégât d'eau. Je voulais revenir là-dessus avec un spécialiste parce que vous avez posé beaucoup de questions à notre équipe au cours des derniers jours. Alors, pour bien vous renseigner, on s'est dit parlons à Patrick Champagne, qui est biochimiste. Il est spécialiste en qualité de l'air chez Enviro Options. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Isabelle.
Vous vous envoyez régulièrement de ce genre de problème-là?
C'est notre lot quotidien, oui.
Comment vous réagissez par rapport à ce que vous avez vu au cours des derniers jours? Évidemment, les gens de Sainte-Marthe sur le lac, des voitures remplies d'eau jusqu'au toit, des maisons dont le sous-sol est complètement le 6 pieds d'eau.
C'est incroyable. Ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment du jamais vu dans un premier temps. Puis, au-delà du fait que c'est impressionnant, c'est surtout très désolant parce que les gens perdent quasiment tout. Il y a des propriétés qui peuvent être remises à niveau, je dirais, en ce sens où on peut faire certains travaux, mais il y a des gens qui vont complètement perdre leur maison. Là. C'est terrible.
Bien, à Sainte-Marthe, ceux qui sont ce qu'on a dans le quartier sacrifié, là, c'est comme ça qu'on l'appelle, la zone sacrifiée, qui regardent d'ailleurs la nouvelle digue qui a été mise là, sur la 29e, là, puis où ils voient, on voyait une photo hier dans le journal, il y avait les chanceux d'un bord, du bon bord de la digue, puis il y avait les malchanceux de l'autre côté qui avaient la maison complètement submergée. Ces maisons-là, est-ce qu'on va pouvoir refaire quelque chose quand l'eau va se retirer éventuellement?
Il y a des choses qu'on peut faire, effectivement. Par contre, ce qui arrive, c'est que les coûts vont être tellement exorbitants pour certaines personnes qu'il va probablement, on va choisir de démolir la maison, tout simplement.
Ouais.
Dépendamment des propriétés, évidemment. Certaines maisons vont pouvoir être récupérées pour faire les travaux de dégarnissage, donc on retire complètement tous les matériaux. Quand ça a été inondé comme ça, il faut penser aussi qu'il y a des choses qu'on doit retirer, comme les circuits électriques. Les gens ne pensent pas à ça. Alors, c'est vraiment, on ramène le sous-sol au béton et au bois. Et ensuite, on voit ce qu'on peut conserver pour le rez-de-chaussée.
Oui. Évidemment, bon, on le dit, il faut agir rapidement avec l'eau. Il faut le sécher le plus vite possible. Quelles sont les règles à suivre dans les cas d'inondation? Commençons par là, puis après, on passera aux dégâts d'eau plus communs.
Pour l'inondation, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, les gens retournent chez eux, puis il faut penser qu'ils ont peut-être 1 à 2 pouces de vase au sous-sol. Alors, c'est pas juste un petit dégât d'eau. C'est qu'il y a des débris végétaux qui sont rentrés de l'extérieur. C'est une situation où l'eau qui a contaminé le bâtiment ne doit pas être prise à la légère. Donc, il faut penser que c'est un environnement qui est contaminé. Il y a des débris, il y a des déchets, il y a du verre cassé. On ne peut pas rentrer là simplement en rentrant comme on le ferait dans un autre environnement.
Il y en a qui l'ont fait, on a vu, puis qui on disait, faites pas ça, vous risquez votre vie, justement, vous risquez d'être malade.
Oui, tout à fait, exactement. Il y a des bactéries. Les moisissures, dans certaines circonstances, oui, mais vraiment, c'est une eau qui est contaminée. Il y a une présence de bactéries qui est très importante. Si vous voyez les gens qui sont amenés à travailler sur ces sites-là, qui proviennent d'entreprises spécialisées, ils rentrent avec des gants, des bottes, l'équipement de protection personnelle, la zone est sécurisée, on travaille en pression négative, ce qui veut dire qu'on va vraiment contrôler tout l'air qui circule dans le bâtiment.
Avez-vous des masques spéciaux?
Oui, absolument. Oui, c'est un masque qui protège contre les particules fines. Donc, on veut s'assurer de ne pas respirer du sport de moisissures, de bactéries, de poussière de démolition également.
Ça prend combien de temps avant que les bactéries, justement, vous parlez de spores, de moisissures, combien de temps ça prend avant qu'un espace, une fois inondé, combien d'heures ou de jours ça prend avant qu'il soit vraiment insalubre puis qu'on ne puisse pas respirer cet air?
Bon, dans le cas d'une inondation, c'est comme ce qu'on voit en ce moment. Il faut prévoir que l'eau qui contamine, elle est déjà contaminée. Donc, ce n'est pas une question de temps, c'est là. Alors, tout ce qui est, par exemple, poreux, le gypse, l'isolant, les sofas, tout ça qui a été touché par l'eau provenant de l'inondation, on s'en débarrasse. Donc, si c'est poreux, on doit s'en débarrasser parce qu'on considère que l'eau, elle est contaminée dès le départ. Ensuite, la question de moisissure, c'est plus un dommage secondaire, en ce sens où les objets qui vont demeurer humides trop longtemps vont éventuellement commencer à moisir. Alors, c'est un phénomène qui, d'une perspective, je dirais, microscopique, là, va commencer à peu près trois jours après que le matériau soit complètement submergé d'eau. Mais ensuite, il faut savoir que quand on retire l'eau et que ça reste encore humide, ça ne sèche pas de façon suffisamment efficace pour éviter qu'il y ait un développement fongique. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des développements fongiques si les gens conservent en place des matériaux.
Ouais. On va donner les numéros pour nous joindre, 514-790-9850 dans la grande région de Montréal, et pour nous joindre un peu partout au Québec sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez déjà eu des problèmes de moisissure chez vous, comment vous êtes venu à bout de cette situation-là. Si vous avez des questions, bien sûr, pour notre invité, le biochimiste Patrick Champagne, vous pouvez le faire également. Parce que ici on parle de qualité de l'air, hein? On parle de la qualité de vie finalement. J'ai eu l'occasion au cours des derniers jours, puis au cours des dernières années, à force d'inondations, oui. Parce que vous dites que c'est une situation exceptionnelle, les inondations, mais là, on a de plus en plus, c'est quasiment aux deux ans qu'on en a des grosses dont on dit... Tu sais, au début, ça a commencé, il y a deux semaines, on disait « les niveaux d'eau seront jamais aussi pires que 2017 ». Là, on a dépassé les niveaux de 2017. Et sans être prophète de malheur, il n'y a rien qui nous garantit que dans un an ou dans deux ans, ce ne soit pas pire. Si on regarde les changements climatiques, c'est ça aussi, les modifications, le déséquilibre du climat. Là, ceux qui se demandent comment ça se fait, bien, c'est un peu ça aussi. Là.
On le vit en ce moment. On vit l'impact des changements climatiques, tout à fait.
Donc là, il y a évidemment les gens qui sont submergés, qui pourront jamais, même si tu veux sortir, là, on dit là, on veut sortir les meubles endommagés de ces maisons-là, mais c'est une bonne affaire à faire.
De
sortir les meubles puis de dire oui, je vais peut-être pouvoir.
En fait,
vaut mieux dire c'est des meubles que j'abandonne puis je suis obligé de m'en racheter d'autres.
On les abandonne. On en rachète d'autres pour les meubles qui ont été submergés dans l'eau d'inondation. Évidemment, il faut savoir que ça prend un avis d'un expert pour évaluer la situation de chaque bâtiment. Si vous avez eu, par exemple, 4 pieds d'eau dans un sous-sol, ben, le rez-de-chaussée, normalement, sera épargné, à moins, évidemment, que l'eau ait généré une humidité excessive qui, elle, va ensuite entraîner, comme je disais précédemment, des dommages secondaires au rez-de-chaussée.
Les fameux spores dont vous parlez, oui. Expliquez-nous un peu comment ça marche. Ça a l'air de quoi? Comment sait-on si on a des moisissures dangereuses ou des moins dangereuses? Parce qu'elles n'ont pas toutes la même couleur, la même apparence.
Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc, dans un premier temps... Les spores, c'est la partie qui permet à la moisissure de se reproduire. Alors, les spores sont facilement aéroportés, ça se déplace dans l'air et ça va se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça se détache d'un site où il y a une colonisation fongique pour se déplacer ailleurs, ça se dépose sur une autre surface en attendant qu'il y ait assez d'humidité pour coloniser de nouveau une surface. Pour ce qui est des moisissures qui sont dangereuses, il y en a plusieurs. Plus les matériaux sont humides, plus l'humidité persiste, plus il y a un risque d'avoir des moisissures qui sont dommageables pour la santé. Mais au-delà de ça, avant de se préoccuper de la nature des moisissures ou du type, il faut savoir qu'on ne doit pas tolérer des moisissures dans un milieu intérieur. Il y a plusieurs particules fongiques qui sont allergènes, puis là, c'est du cas par cas. Par exemple, vous pouvez avoir dans une famille un couple. La dame, elle est très sensible, donc elle vraiment a des problèmes importants de santé, alors que le conjoint, lui, qui est moins sensible ou qui n'est pas allergique à ces particules-là, ne ressent pas les effets de la contamination qui affecte le bâtiment.
Wow. Incroyable.
Donc, on a la spore qui se dépose, qui va former des premières croissances qui sont vraiment microscopiques. On ne les voit pas. Alors, par exemple, au bout de 3 jours, c'est vraiment par l'usage d'un microscope qu'on voit qu'il y a une surface qui commence à être affectée par les moisissures, mais à l'œil nu, on ne le voit pas.
Mais est-ce que ça peut quand même nous atteindre au niveau
de
santé?
Non, en termes de concentration, il n'y en a pas suffisamment pour avoir un impact sur la qualité de l'air, par exemple. Ouais. Ensuite, on va avoir une humidité qui persiste, une colonisation qui devient de plus en plus importante. Les moisissures sont en pleine croissance et là, on va voir des taches qui apparaissent, qui peuvent être de couleurs variées, qui vont avoir des formes variées. Ça peut avoir une couleur noirâtre, verdâtre, ça peut avoir un aspect cotonneux, ouateux, et ça se forme sur la surface des matériaux. Et quand la couleur est installée, bien, c'est là où on sait qu'il y a des spores qui sont produites par la moisissure qui se développe. Ces spores-là se retrouvent dans l'air, on ne les voit pas, c'est microscopique. Si vous entrez en quelque part et que vous sentez une odeur de moisissure, oui. C'est parce que là, il y a une croissance. Il y a quelque chose qui se passe.
Tu sais, quand on dit ça sent... Ouais, c'est ça sent le moisi, ça sent l'humidité.
Exactement.
Des fois, ça sent l'humidité. Si ça, ce qu'on dit, là, quand on dit ça sent l'humidité, est-ce que c'est forcément des moisissures qu'on sent?
Règle générale, c'est qu'il y a un développement microbien. Ouais. Et à ça, on peut s'attendre à ce que ce soit des moisissures.
Donc, est-ce que tout développement microbien, donc des moisissures, doivent être absolument traités avec un spécialiste? Est-ce qu'il y en a qui ne méritent pas qu'on s'en inquiète, ou il faut toujours s'inquiéter de ça,
ben, en fait,
Patrick?
Il y aura tout le temps des moisissures dans un bâtiment. Je pense aux gens qui, dans
ça, j'essaie de voir lesquels on peut supporter, jusqu'à quel point on peut le supporter, vivre avec, puis dire, OK, bon, ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? On vit dans un environnement, un écosystème.
Tout à fait. Alors, deux choses. Les moisissures sont partout. Alors, on ne peut pas éviter de les avoir dans le bâtiment. On va avoir des moisissures dans l'espace douche. On ne fait pas venir une compagnie pour ça. On utilise un produit, on nettoie, puis ça suffit. C'est tout. On peut avoir des fois, je dirais, ce que j'appelle une petite bad luck, par exemple, un tuyau d'eau qui coule dans le garage là, pour l'arrosage du jardin, qui va faire une petite surface qui est moisie. Bien, on s'en occupe nous-mêmes. C'est une surface qui est petite, moins d'un pied carré. On le fait nous-mêmes. Il n'y a pas vraiment de problème. Si on a laissé aller les choses puis que c'est un peu plus moisi, bien là, on peut le faire nous-mêmes. On va mettre des gants, mettre un masque, on se protège parce que la surface, elle est plus grande. Et quand on parle d'une surface qui est vraiment d'une superficie, disons, supérieure à 100 pieds carrés, bien là, nécessairement, c'est une entreprise spécialisée qui doit s'occuper des travaux. Alors, il y a la question d'ampleur des dommages causés par les moisissures. On le fait nous-mêmes sans trop de préoccupation, ou on le fait nous-mêmes en se protégeant, ou sinon, on confie ça à une entreprise spécialisée. Et ensuite, pour ce qui est de la nature des moisissures, bien là, je vous dirais, s'il y a des moisissures, on ne veut pas les tolérer à l'intérieur. Ce qui veut dire que ce soit les quelques moisissures qui vont se former sur le bord de la fenêtre où il y a de la condensation, c'est pas parce qu'il y a ces moisissures-là qu'il y a un problème de salubrité fongique avec le bâtiment, mais on laisse pas aller les choses. On les nettoie quand même.
On a Sylvain qui nous appelle, 514-790-9850, pour nous joindre également. Sylvain, bonjour. Je pense que vous avez été un sinistré des inondations de 2017.
Oui. Sinistré de 2017.
Vous avez eu des moisissures importantes chez vous par la suite, Sylvain?
Zéro.
Zéro? Comment vous avez fait?
C'est que j'ai une cave de service, puis j'ai pas pompé, j'ai pas enlevé l'eau quand c'est arrivé l'inondation. Puis j'arrêtais pas de dire que j'avais une piscine dans la cave. Là. Puis quand c'est arrivé le plus haut, puis c'était terminé, qu'on s'en allait du bon côté, c'était pour baisser. Je suis allé voir quelqu'un qui vend des articles de piscine, là, puis les tout clair.
Ouais.
Et j'ai fait calculer le volume d'eau que j'avais dans la cave. Et j'ai fait un traitement choc de piscine normal.
Dans votre sous-sol?
Oui. Et je peux vous dire que les firmes, après, sont passées pour désinfecter. M'ont dit que j'avais fait un meilleur travail qu'eux. Parce que moi, j'ai désinfecté tout. Le bois, tout était désinfecté au complet.
Vous avez fait un traitement de piscine dans votre sous-sol?
Quand c'est venu au maximum de hauteur. Puis, je l'ai maintenu comme une piscine. Ça sentait pas plus fort qu'une piscine. Ça sentait moins fort qu'une piscine municipale. Puis, quand c'était terminé, j'ai mis l'échangeur d'air dans la cave, sorti extérieur, à plein pouvoir pendant tout l'été. Deux semaines après que l'inondation, ils sont passés. J'avais déjà perdu 50 % d'humidité. Fait qu'il y a eu zéro bactérie. Ça sentait encore un petit peu l'eau de Javel.
Puis vous avez fait vérifier ça au niveau là, des moisissures, de l'air par la suite avec la qualité de l'air, vous l'avez mesuré?
Oui, une firme spécialisée sont venues, puis j'avais moins de bactéries qu'une maison normale.
Ah, mon Dieu, hey, j'en reviens juste pas, Sylvain, c'est magnifique. Patrick Champagne sourit, mon invité. A-t-il fait la bonne chose? Visiblement, Sylvain semble avoir été ingénieux.
Enfin. Il faut être prudent, effectivement. Oui, très vrai. Ingénieux, il a calculé ses choses, il a fait une bonne approche. Il faut savoir, c'est une cave de service, c'est pas un espace habitable.
Oui, c'est ça. Ouais.
Deuxièmement, le chlore est probablement l'agent aseptisant le plus utilisé. Donc, on s'en sert abondamment pour les piscines, le traitement de l'eau, on nettoie les légumes avec le chlore, on s'en sert abondamment. Par contre, on peut pas s'en servir comme on veut.
Parce c'est pas trop bon pour l'humain. Moi,
c'est ce que j'allais dire.
Moi, je veux plus me baigner dans des piscines de chlore.
Tout à fait. Donc, on cherche des méthodes alternatives pour pouvoir aseptiser tout ce qui vient en contact avec l'humain parce qu'on veut pas mettre du chlore partout. Alors là, on est entre la solution...
radicale dans ce cas-ci, c'était ça. Là.
Qui a fonctionné pour ce cas-là, qui est vraiment adapté à la situation où c'est pas un espace habitable.
Mais il faut quand même préciser aux gens, commencez pas à mettre... Là, on l'a bien compris, c'était comme un vide sanitaire quasiment. Oui. Là, c'était comme, mettez pas du chlore dans votre sous-sol. Là.
C'est ça.
Juste pour
c'est
être sûr. Il faut juste être sûr. Si vous avez un sous-sol qui a été inondé, essayez pas ça à la maison. Hein, Patrick?
Tout à fait.
C'est ça.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le chlore est un agent oxydant très sévère. Alors, ça va abîmer les surfaces quand on en met de façon trop importante. Ça va affecter la qualité de l'air. Ça va avoir un impact sur les gens qui habitent à l'intérieur du bâtiment.
Ouais.
Alors là, on parle de quelqu'un qui a dosé pour avoir à peu près la même quantité de chlore qu'on retrouverait dans une piscine, qui a laissé aller les choses. Ça a mariné dans le chlore. Il a probablement aseptisé ce qui était là, puis ensuite, il a évacué l'eau de façon adéquate. Et tant mieux, ça a fonctionné dans son cas.
Ouais.
Mais si on se rapporte aux recommandations des méthodes standardisées, l'usage d'un produit chimique n'est pas un remplacement à une décontamination complète. Alors, c'est on ça. Ne peut pas utiliser un produit chimique dans l'espoir que ce soit la seule façon qu'on décontamine.
Mais c'est important de le dire, Patrick Champagne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des coûts astronomiques là, à absorber eux-mêmes, puis qui pourraient être tentés de dire « je vais décontaminer moi-même oui. » plutôt que de passer par une entreprise qui va sans doute charger plusieurs centaines ou des fois, si c'est grave, plusieurs milliers de dollars. Ça monte vite. Hein?
Oui.
Vous me direz après la pause combien ça coûte là, quand on parle de décontamination, de moisissure et tout ça. Donc, il y a la compagnie qui décontamine, puis après ça, il y a la compagnie de rénovation. On parlait de réno tout à l'heure. On va recevoir l'humoriste Marie-Lise Pilote. Là. Tout est lié, puis ça coûte cher, mais il faudrait dire aux gens, évitons peut-être de le faire nous-mêmes, même si c'est tentant, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. On va aller à la pause là-dessus. Beaucoup de gens veulent intervenir. 514-790-9850, sans frais partout au Québec. Vous pouvez faire le 1-866-790-9850. Si vous avez eu déjà des problèmes de moisissure, dites-nous comment vous avez vécu avec ça. Et comment savoir si votre maison en contient? Ça, c'est une autre question à laquelle on va essayer de répondre tout de suite après ceci. Comment savoir si votre maison contient des moisissures? Parfois, on s'en rend compte... Quand c'est trop tard, malheureusement, vous allez me dire, il n'y a jamais trop tard, on peut toujours intervenir. Je suis en compagnie du biochimiste Patrick Champagne. On va parler à Jocelyn. Bonjour, Jocelyn.
Bonjour, Isabelle. J'ai une question pour votre expert. Ma question est la suivante, c'est que j'ai un vide sanitaire. Présentement, j'ai une résidence secondaire qui est à Rigaud, qui est complètement entourée d'eau. L'eau n'a pas rentré à l'intérieur parce que j'ai des fondations immunisées. Par contre, l'an dernier, j'ai fait isoler complètement le vide sanitaire avec de la mousse d'urethane qui va complètement jusqu'au haut, aux solives de rive. Par contre, je suis allé ce week-end et je marchais sur la mousse et je sentais que c'était plus mou qu'à l'habitude. Donc, je sens qu'il y a de l'eau en dessous de ça. Est-ce que je dois m'inquiéter pour des problèmes d'air plus tard, pour de la moisissure?
C'est une bonne question, Jocelyn. Patrick?
Moi, je vous dirais définitivement. En fait, ce qui arrive, c'est que la mousse urethane, c'est un isolant, mais c'est également un coupe-vapeur. Donc, toutes les surfaces qui vont contenir de l'humidité de façon excessive, qui sont recouvertes d'urethane, ne peuvent pas sécher. Ce qui m'amène à dire que si vous avez une fondation qui a été isolée à l'urethane et que le béton est saturé en eau, l'eau va vouloir se disperser selon... je dirais, la concentration. Fait que vous avez la portion qui baigne dans l'eau au niveau de la fondation et cette eau-là va, par capillarité, se rendre ailleurs pour éventuellement se rendre à la structure de bois qui est déposée sur la fondation. Si cette structure-là, elle est, elle également, soufflée à l'urethane, elle ne pourra pas sécher. Alors, ma meilleure recommandation pour vous, c'est de retirer l'urethane pour évaluer la condition des matériaux sous l'urethane. Faites ça avec des instruments qui permettent de mesurer la quantité d'humidité qui sont dans les matériaux. L'autre chose, c'est qu'il ne devrait normalement pas y avoir de modification dans la composition des matériaux. Ce que je veux dire, c'est que votre plancher qui est anciennement rigide, solide, il ne devrait pas être différent. Si vous voyez un changement, c'est probablement...
parce qu'il se passe quelque chose en dessous.
Exactement, ouais. C'est ça. Il se passe quelque chose en dessous. Le fait qu'il y a de l'urethane, ça peut protéger contre l'humidité, mais malheureusement, si l'humidité arrive de tous côtés, ben là, l'urethane va empêcher l'assèchement. Puis là, c'est un facteur aggravant dans plusieurs circonstances.
Ouais. Merci, Jocelyn. On a Louise avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est un solage extérieur qui est beau partout, sauf côté est, qui est à l'ombre à cause de la haie de cèdre du voisin. Il n'y a jamais de soleil, là. Et le solage est tacheté. Il y a comme des taches jaunes, brunantes, blanchâtres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Dis-moi, madame, est-ce que vous me parlez de la face extérieure de la fondation
oui,
ou de la face intérieure?
Oui, exposé à l'est, à l'ombre.
Oui.
À cause d'une haie du voisin.
Ben écoutez, je vous dirais, c'est pas vraiment quelque chose qui est problématique pour le bâtiment. Vous pouvez garder ça à l'œil, utiliser une brosse pour frotter, nettoyer un peu, mais c'est pas quelque chose qui va compromettre la qualité de l'air à l'intérieur. Vous n'allez pas vous inquiéter
pour ça.
C'est
dehors, c'est
exactement,
ça. Ça passe pas à travers des murs. Là.
Maintenant, qu'est-ce qu'on met sur la brosse? Quel produit pour nettoyer ça?
Vous pouvez utiliser quelque chose qui est simplement un détergent pour brosser la fondation.
Quoi comme détergent?
Savon à vaisselle, c'est suffisant.
Ah oui, okay.
Vous pouvez utiliser des choses comme phosphate trisodique, ce qu'on appelle du TSP.
Oui, OK.
C'est un excellent nettoyant pour le béton.
Oui. Ah,
TSP. Vous a...
Oui, okay. TSP.
Est-ce que ça enlève l'espèce de phosphorescence?
Efflorescence.
Comment on appelle ça?
Efflorescence.
Efflorescence, que c'est un bon nom de fleur.
Oui, c'est ça.
Mais c'est les espèces de traces blanches qu'on voit souvent au printemps comme ça, parce que ça se forme l'hiver, c'est ça? Sous quel...
Oui, ce qui arrive, c'est que dans le béton, on retrouve des sels, évidemment. Donc, ouais. Quand l'eau traverse le béton, les sels vont migrer avec l'eau.
C'est ça.
Alors, imaginez, il y a une pression d'eau qui s'exerce sur la fondation, l'eau traverse le béton, et quand l'eau émerge du côté plus sec, les sels qui ont migré avec l'eau vont se cristalliser à la surface et c'est ça qui nous laisse la ligne blanche. Un petit peu comme on a sur les bottes là, pendant l'hiver.
Voilà. Est-ce que le TSP, c'est bon pour ça aussi?
Ça va permettre
ça, ce genre d'affaires, c'est dur à enlever. Là.
Oui. Bien, en fait, le rinçage, c'est ce qui va retirer l'efflorescence. Vous pouvez utiliser des produits spécialisés pour l'efflorescence, mais ici, dans le cas d'un mur extérieur, le TSP, c'est suffisant. C'est quelque chose que vous achetez en quincaillerie. Suivez les instructions sur le contenant pour amener une dilution. Puis, assurez-vous de ne pas abîmer les végétaux. Aussi, conservez à l'esprit que le TSP, c'est un produit chimique. Alors, mettez des gants, protégez-vous.
On met des gants, il faut-tu un masque?
Un masque préférablement, si vous utilisez ça à l'intérieur, à l'extérieur, protégez-vous surtout des yeux pour vous, pour pas avoir des éclaboussures.
Ah ben oui. Isabelle est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, écoutez, moi, je suis locataire, je demeure au troisième, et puis j'ai un dégoto depuis le 24 février. Le G-Proc, on mettait nos doigts, là, puis nos doigts renfonçaient. Et puis là, ils veulent revenir faire ça, mais ils veulent laver le G-Proc parce qu'ils veulent pas l'enlever, parce qu'ils vont être obligés d'enlever les armoires, etc. Là, on tousse, on mouche.
Voyons donc, Isabelle, tu tolérais pas ça?
Oui.
C'est qui, il?
Ben, c'est le propriétaire.
Ah, OK. Mais là, lui, il faut qu'il appelle son assurance puis qu'il fasse une réclamation. Mais ça, là, du G-Proc, on lave pas ça, Patrick. Hein,
non, mais ça revient à ce que je disais. C'est poreux. Donc, poreux, humide et aussi tellement humide que c'est nécessairement moisi, là, on le remplace.
Parce que tellement là, qu'il y avait de l'eau, là, ça longeait le mur, le G-Proc, là. Ça allait en dessous du lavabo, dans le fond, là. Ça sortait par mes tuiles de plancher de cuisine, tellement qu'il y avait de l'eau. Là, ils ont arrangé le problème. Ils ont fait venir quelqu'un du toit qui ont juste colmaté ce qui coulait. Ils ont fait venir un plombier qui ont changé un tuyau. Je ne sais pas si c'est le drain ou peu importe. Et puis là, hier, là, c'est la laine isolante comme genre grisante en mouton, là. Ça tombait et puis c'était tout mouillé. Mais eux, ils me disent, oh, on va juste laver le G-Proc, on va changer ton plancher et puis tout va être correct.
Ça sera définitivement pas correct.
Non, c'est pas correct, il dit Patrick.
Non, définitivement pas. Vous pouvez pas permettre ça. Écoutez, ces cavités-là, cavités de plancher, cavités de mur, qui vont rester humides où l'humidité persiste, c'est le milieu idéal pour avoir des moisissures. Ça va avoir un impact sur la qualité de l'air, c'est assuré.
Wow, incroyable. Puis ça, peut-être qu'on pourrait s'arrêter ici parce que c'est le moment de prendre une pause. Il y a Marie-Lise Pilote qui va venir nous parler de rénovation aussi parce que c'est important. Puis elle a Pilote et fille. Elle, de plus en plus, ça marche bien. Ça fait 10 ans que son entreprise Pilote et fille qui encourage justement les métiers de la construction non traditionnelle. Elle a fait sa place là-dedans, Marie-Lise, en plus d'être toujours humoriste. Fait qu'elle va se joindre à notre conversation. Patrick, vous restez un petit peu parce que j'ai d'autres questions, là. Et je pense que le public aussi. Donc, on poursuit là-dessus. Va s'ajouter, donc, Marie-Lise. On continue de parler de moisissures, mais plus largement de rénovation, parce que là, la question d'Isabelle arrivait là, là. Qu'est-ce qu'on fait avec du G-Proc quand ça coule dans ton sous-sol? Des fois, c'est pas de l'inondation. C'est juste que des fois, il y a de l'écoulement dans tes murs. Puis si au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, des fois que tu t'en rends compte, mais là, faut pas patcher. Ça reste un vrai problème de santé. À tout de suite, tout le monde.